Game Radio.
Dans un futur proche, certaines personnes s'adonnent à un jeu de réalité virtuelle. Les émotions qu'ils procurent créent une dépendance.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Game Radio. Nous sommes jeudi et c'est le 55e épisode que nous vous proposons aujourd'hui. Et je vous le rappelle, c'est un rendez-vous quotidien et c'est un vrai plaisir d'enregistrer tous les jours cette émission. Et je suis bien entendu, comme chaque jour, en compagnie de Shoham.
Salut à tous, bonjour.
Comment vas-tu?
Moi je vais toujours très bien, comme tous les jours, et ravi d'être là et de parler, de
Ne t'inquiète pas, je t'ai pas demandé de présenter. Aujourd'hui on va éviter le début un petit peu catastrophique du podcast d'hier, on va pas faire ça tous les jours. Voilà, merci en tout cas d'être là encore aujourd'hui. Nico est parmi nous aussi, salut Nico.
Salut.
Et puis aujourd'hui nous avons un invité, quelqu'un qui va donc participer à cette émission du début à la fin. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Philippe Laune, qui est le papa d'une team, la team SDL, les soldats du live. Philippe, bonjour et bienvenue parmi nous.
Oui, ben bonjour, bonjour donc à vous trois et puis surtout merci de m'accueillir dans votre émission.
Écoute, c'est tout à fait normal, c'est un plaisir pour nous en tout cas. Si on t'a invité dans cette émission, c'est principalement pour en savoir plus bien entendu sur votre team, hein, comment vous fonctionnez, quels sont les jeux sur lesquels vous jouez, vos membres, vos championnats, vos projets, votre histoire aussi, même si c'est assez récent, on va le voir, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis surtout, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est en savoir un peu plus sur l'e-sport en général. Mais ça ce sera donc pour la deuxième partie de cette émission, puisque comme chaque jour on va commencer avec ce qu'on appelle un peu pomposement chez nous maintenant les News Game Radio, en tout cas notre petit tour d'horizon quotidien de l'info vidéoludique la plus récente, voilà, celle des dernières 48 heures. Philippe, bien entendu, tu es là, hein, donc tu n'hésites
oui.
pas, si tu veux intervenir, tu peux le faire, tu as notre totale autorisation.
Bien, merci.
Voilà, je crois que Shoham, on va commencer avec Splinter Cell, car tu as le jeu. Tu as pu l'essayer, donc
oui.
Bon, bah, voilà, nous on avait essayé la démo, on avait déjà un petit peu donné notre avis sur le jeu dans un podcast hier ou avant-hier, je sais plus exactement. Toi tu l'as eu en main, est-ce que tu peux nous donner tes premières impressions sur Splinter Cell?
Alors je peux pas comparer par rapport à la démo, puisque je l'ai pas eu la démo entre les mains, mais alors de ce que j'en ai vu, ça ressemble pas vraiment au Batman comme tu avais dit au départ.
Ah, finalement, d'accord.
Finalement je pense que ça ressemble bien plus au Splinter Cell que l'on connaît original, avec beaucoup plus d'aide pour pouvoir se cacher, un meilleur tutoriel. Et bon, je pense que ce qui va faire ressortir le jeu par rapport à la concurrence, c'est que tous les objectifs sont complètement insérés dans le décor. Et ça, je crois que c'est complètement novateur. Je crois pas avoir vu de jeu qui faisait ce genre de choses, c'est-à-dire que tu n'ouvres pas une seule fois le menu.
Oui, ça fait un petit peu penser à... dans le genre, à Dead Space, hein, qui proposait justement un menu, en tout cas des options,
exact.
Et voilà, vraiment intégré dans le décorum du jeu, dans le jeu. Là, d'une manière différente, mais... puisque c'est une projection sur les éléments de décor.
Oui, tout à fait, mais surtout, il me semble que c'est la première fois qu'on le voit dans un jeu d'infiltration, me semble-t-il. Hein.
Ah, je...
Bah, ça avait été mis en avant par Ubisoft pendant l'E3, où ils avaient présenté les vidéos de Splinter Cell, si je me rappelle bien.
Ouais, tout à fait, j'allais dire, c'est un des éléments qui a été mis, comme tu le disais, en avant par Ubisoft, dans la promotion du jeu. Et c'est vrai que quand on joue, c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant.
Ça claque.
Tout à fait.
En fait, le truc, c'est que ça ne sert pas que pour les objectifs de mission, même si c'est très utile, mais ça sert aussi pour l'histoire, puisque des fois, à certains moments, on a sur le mur des espèces de flashbacks où on voit des moments de la vie de Sam Fisher qui se projettent sur le mur. Et ça aussi, ça donne vraiment un petit côté qui est très très novateur et je trouve très sympa.
En tout cas, on parlera de Splinter Cell dans quelques jours. Ah, excuse-moi, Philippe, tu voulais dire quelque chose?
Non, c'est bon, non, mais juste vu que bon, le point fort de ce jeu, oui. ce qu'on voyait un peu sur toutes les previews, c'était surtout le graphisme aussi, et que c'était vraiment un nouveau jeu. Il y en a certains qui disaient qu'on aurait pu l'appeler tout à fait différemment, parce que c'est vraiment pour beaucoup un nouveau jeu. Quoi.
Je pense qu'il y a quand même, une suite dans l'histoire hein, de Sam Fisher. Oui. Pardon, je cherchais son
nom. Après, si je pense que si tu compares au tout premier jeu qui était sorti sur Xbox, il y a quand même une grand pas qui a été franchi.
Oui, ouais, bah, je pense même que le côté scénaristique du jeu a pris les devants. En plus de l'aspect infiltration. En tout cas, au début, on nous vendait vraiment un jeu d'infiltration avec un soldat en collant noir, enfin habillé de noir avec les lunettes à vision nocturne. Aujourd'hui, c'est autre chose.
Non, parce qu'en fait, moi, là, cette fois-ci, je pense que j'irais le comparer jusqu'à Max Payne, au niveau de l'histoire, hein, je parle, puisqu'il y a vraiment des flashbacks, même au niveau du gameplay. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le tutoriel, pour pouvoir faire des mouvements spéciaux, il faut que tu reviennes dans un flashback qui te réapprend des mouvements. Ça, c'est intéressant aussi.
Ah, d'accord.
J'irais même le comparer jusqu'à Max Payne.
Ok, très bien. En tout cas, moi, j'avais une petite info à rajouter, c'est qu'Ubisoft va entre guillemets récompenser les acheteurs qui vont acquérir le jeu là tout de suite en offrant gratuitement des DLC, et normalement ça devrait arriver tous les jeudis. Je sais pas exactement pendant combien de temps. En tout cas, dès aujourd'hui, vous allez pouvoir récupérer un pistolet mitrailleur. Ça se récupère en passant par la section extra dans le menu principal du jeu, et puis j'imagine que de toute façon pour les autres et puis à long terme des contenus payants arriveront. Tiens, à propos de contenus payants, quelques mots. Alors je vais juste dire une chose concernant la team SDL et voilà, vous jouez en grande partie sur le Xbox Live, voire exclusivement, je crois, via le Xbox Live.
Oui.
Donc, vous êtes des consommateurs de DLC, notamment, parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais vous jouez beaucoup sur Forza Motorsport, et je pense qu'il y a pas mal de choses à télécharger, de contenu téléchargeable payant. Est-ce que tu as une petite opinion là-dessus? Tu peux nous donner ton point de vue sur les DLC proposés sur Xbox?
Oui, moi je trouve que c'est très très intéressant, parce que bon, il faut savoir que, surtout concernant le jeu Forza, donc au début, quand il est sorti, il y avait 400 voitures de disponibles réparties sur 40 marques.
Ce qui est déjà
et
beaucoup.
C'est déjà beaucoup, absolument. Et on a régulièrement donc des packs à télécharger. Là, le dernier, justement, rassemblait une dizaine de voitures pour 400 points, ce qui fait, je crois, à peu près dans les 4-5 euros. Je pense que c'est, pour nous, personnellement, on trouve que c'est très, très intéressant. On a également souvent des nouveaux circuits qui se rajoutent. Faut savoir qu'à la base, il y a 25 circuits sur le jeu répartis sur à peu près 140 tracés. Et nous, on est vraiment très friands de ce genre de pack à télécharger avec des nouveaux circuits, des nouvelles voitures. Mais les voitures, c'est vraiment très, très régulier. Là, le dernier pack, on a la dernière Golf R, on a la Renault Mégane, la dernière qui vient de sortir. Enfin, il y a beaucoup de nouvelles voitures et aussi des anciens modèles qui arrivent régulièrement.
Et j'imagine que systématiquement, tous les membres de la team vont aller acheter les DLC disponibles. Ça, c'est évident.
Absolument. Le seul problème, les derniers championnats que l'on fait, on a donc c'est des championnats open où on a rassemblé 160 joueurs pour le dernier championnat Clio Cup, et le dernier DTM qui va bientôt commencer, on est également 160. Il y a un nouveau circuit qui est arrivé, qui est le circuit F1 du Nürburgring. Malheureusement, on n'a pas pu l'inclure dedans parce que tout le monde n'achète pas les packs. Et quand on impose un nouveau circuit comme ça, on est obligé de limiter les inscrits et tout.
Voilà.
Le monde,
et au-delà de ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais pour en avoir déjà discuté avec Nicolas, notamment, je crois qu'il faut aussi laisser le temps aux joueurs d'apprendre les circuits.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, j'imagine. Bon, très bien. On va passer donc à la suite de ces infos. Moi, je voulais parler un petit peu de PS3, parce que alors là, ça m'a surpris. Apparemment, la PS3 arrive au Brésil fin juin. Moi, je pensais que la PS3 avait été distribuée mondialement, que tout le monde pouvait acheter sa PS3. Eh bien non, au Brésil, ils ont pas encore de PS3. Et il faut même savoir que la PS2 est sortie il y a à peine quelques mois seulement là-bas. Et alors ça, moi, j'étais vraiment sur le cul. Je pensais sincèrement que tout le monde aujourd'hui pouvait acheter une console de jeu de next-gen, en tout cas une PS3, où que ce soit dans le monde. Vous, ça vous surprend pas plus que ça?
Moi, complètement.
Encore la PS3, pourquoi pas, mais c'est vrai que la PS2 il y a quelques mois, quand on sait l'implantation mondiale qu'elle a, c'est une des consoles les plus vendues, donc ils sont un peu en retard.
Un peu en retard, d'autant plus que je crois que le Brésil est quand même un pays qui a des soucis, mais qui en même temps est très consommateur de télévision, je pense, de nouvelles technologies. Donc moi, ça me surprend un petit peu. Je pensais qu'ils étaient à jour à ce niveau-là. Enfin voilà, effectivement, la PS2, nous on l'a depuis maintenant 10 ans. Elle est sortie il y a à peine quelques mois là-bas. C'est surprenant. Bon, on peut penser que certains Brésiliens ont dû quand même pouvoir la commander à l'étranger, en tout cas l'acquérir lors d'un voyage. Enfin bon, je pense qu'il doit y avoir déjà des PS2 et des PS3. D'un point de vue commercialisation à grande échelle là-bas, c'est en ce moment.
C'est vrai qu'il y a pas longtemps, la PS2 est sortie dans ces pays, on va dire entre guillemets, tiers monde. je pense que enfin, plus ou moins, les constructeurs de jeux vidéo s'intéressent à ces pays qui tiers, entre guillemets.
Voilà. Brésil, je sais pas si on peut vraiment le considérer comme un pays du tiers-monde. Il y a une fracture sociale évidente. Bon, après, bon, on n'est pas là pour parler de ça, en tout cas. Mais voilà, moi, ça m'avait surpris.
Dans le monde du jeu vidéo, bien sûr, hein, je parle tiers-monde.
Ah oui,
hein,
tout à fait.
Pas dans le tiers-monde. C'est dans le monde du jeu vidéo. C'est vrai qu'il y a le Japon, les États-Unis et l'Europe. Non, non, mais je précise.
Non, mais il a raison. Les pays en voie de développement vidéoludique, on va dire.
Exactement.
On va appeler ça comme ça. Autre news qui concerne la PlayStation 3, il s'agit d'une mise à jour possible, en tout cas envisagée par Sony. C'est Guillaume Couturier qui en a parlé récemment. Je crois que tu le connais un petit peu, Shoham, Guillaume Couturier, qui est community manager chez Sony, donc, qui a annoncé qu'il y aurait prochainement une mise à jour du Play TV. Donc c'est prévu dans le courant de l'année. On sait pas grand chose. On sait qu'il y a pas mal de petites features qui sont envisagées. L'une d'elles étant que le Play TV comporterait des liens vers Facebook. Bon, pour moi, c'est un petit peu anecdotique, mais bon, c'est un des trucs qui est mis en avant actuellement. Alors, le Play TV, on peut peut-être rappeler rapidement ce dont il s'agit. C'est un appareil qu'on relie à sa PlayStation 3 et qui permet... Enfin, vous me dites, hein, si je me trompe.
Pour l'instant, ça va.
Pour le moment, ça va. Et qui permet notamment d'avoir la TNT, d'avoir plusieurs chaînes de télévision et d'enregistrer des programmes et de sauvegarder sur son disque dur.
C'est exactement le but de ce truc-là. C'est une espèce de freebox, pour un enregistrement multimédia pour la télévision.
Et apparemment, ça marche assez bien. Je crois qu'il y a pas mal de personnes qui se sont équipées de l'appareil, qui en sont plutôt contents. Ah, il y a 2-3 reproches qu'on peut lui faire, notamment, je crois, dans le renommage des programmes qu'on enregistre. On peut s'y perdre un petit peu. Tout, voilà. Donc, au niveau de la mise à jour, il y a beaucoup d'attentes. C'est en tout cas ce que j'ai lu sur les forums qui en parlaient. Pas mal de monde espère que quelques bugs aussi seront corrigés. C'est un appareil que tu possèdes, toi, Choua? Moi, je l'ai pas, ça.
Non, je l'ai pas. Je l'ai pas acheté parce que j'ai une Freebox.
D'accord.
Donc, effectivement, ça sert plus à grand chose quand tu as déjà un appareil qui enregistre des programmes.
Philippe, toi, est-ce que t'es équipé d'une PS3 ou est-ce que t'es vraiment branché Xbox 360?
C'est un peu une obligation quand on est passionné de jeux vidéo et de simulation d'avoir une PS3.
Donc
j'ai acheté la PS3 exprès uniquement pour Gran Turismo dès sa sortie et malheureusement j'attends encore.
Oui.
Mais oui, je possède la PS3 parce que pour moi c'est une superbe console et je pense qu'à la sortie de Gran Turismo pour la fin d'année, a priori, on va tous passer dessus et on va passer de bons moments parce que l'avantage de la PS3, c'est qu'au niveau des volants, par exemple, on peut mettre des volants qui sont compatibles avec le PC. On peut adapter sur la PS3 plusieurs volants, comme le G25 par exemple, qui ne sont pas du tout compatibles avec la Xbox.
Et ça, c'est j'ai vu que SDL était passé sur Play 3 depuis 2009 sur votre site, non?
Oui, absolument. On a beaucoup de joueurs qui attendent ce jeu avec impatience, qui s'appelle Gran Turismo.
Deux mots sur...
Vous avez pas de team par rapport à la PS3 sur Uncharted 2 par exemple, où il y a un super multi quand même?
Pour l'instant, on n'a pas de team et d'équipe de joueurs qui jouent sur la PS3.
Je voulais rester, si c'est possible, sur l'histoire du volant quand même. Je voulais rebondir là-dessus.
Ouais.
Quelques mots rapides, parce que peut-être qu'on pourra en parler un peu plus tard, mais sur le volant de la Xbox 360 qui est quand même particulièrement intéressant.
Oui, bon, le volant de la Xbox 360 est pas mal, mais y a un nouveau volant qui est sorti de la marque Fanatec. Beaucoup de joueurs sont en train de s'équiper parce que Microsoft avait l'exclusivité plus ou moins avec la Xbox 360. Malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un bon produit, rapport qualité-prix, 99€, c'est bien. Mais pour les vrais passionnés, ils n'hésitent pas à mettre 200, 300, 400, voire plus dans un système de volant. De cockpit,
donc,
etc.
En gros, ce qui est étonnant, c'est que la console de Microsoft, qui est donc une console de Microsoft, permet pas d'accueillir les volants qu'on peut utiliser sur PC. C'est presque assez étrange, en fait, finalement, quand on réfléchit.
Ouais.
Je voulais justement, le Play TV, rapido, tu l'as ou pas, ça?
Oui, moi je l'ai, mais bon, au début, il marchait pas du tout, donc il a fallu que je le ramène, on me l'a changé, et je m'en suis un petit peu servi, mais maintenant je m'en sers plus. Mais on va voir avec la mise à jour. Mais oui, je l'ai, oui, bien sûr.
Ok, très bien. On va rester sur PS3, avec un petit jeu dont voulait nous parler Shoham, qui s'appelle Kick-Ass.
Ouais.
C'est bien ça?
Kick-Ass, exactement. Et oui, il s'agit d'un jeu qui va sortir sur le PSN, un petit jeu donc, il n'aurait pas coûté plus de 8€.
Attention, pardon, excuse-moi, je demande ma petite traduction quotidienne, Kick-Ass. Je te laisse faire.
Botter le cul.
Merci.
Voilà, bravo.
Tu peux continuer.
On l'a faite celle-là. Oui, en fait, il s'agit d'une licence, pas de film comme on pourrait croire, mais de comics pour ceux qui connaissent, qui surfent effectivement sur la vague de la sortie du film qui devrait arriver, je pense, la semaine prochaine.
Voilà, qui met en scène un faux super-héros, en tout cas un ado qui décide de se déguiser en super-héros et qui est rejoint par des copains pour, il monte une espèce de team de super-héros.
Voilà, un peu inspiré à Watchmen d'ailleurs.
Voilà, tout à fait. Mais c'est une vraie comédie.
Sauf qu'eux, ils n'ont pas de pouvoir.
Voilà, bah imagine.
Ils n'ont pas de pouvoir, c'est ça qui est très drôle. Mais là, ce petit jeu est inspiré du comics, que je conseille vivement pour ceux qui ne le connaissent pas, qui veulent aller plus loin que le film. Et le jeu reprend vraiment le thème et l'humour du comics, avec donc un jeu d'action et pas mal de parodies donc par rapport au film de super-héros que l'on connaît tous. Alors que ça va sortir là.
Ouais, et alors ça sortira aussi sur PSP, iPhone, iPad.
Ah, iPad, d'accord. Et alors
ce qui est assez... pas non plus.
Alors la plupart des adaptations généralement de films à gros budget sortent en jeu boîte, hein, matérialisé, qui est l'opposé de dématérialisé. Là, dans le cas de Kika, c'est très différent. Je crois que Watchmen, d'ailleurs, avait été adapté en jeu et qui était sorti sur le XBLA.
Exactement. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils ont adapté le film, ce qui n'a pas été une franche réussite. Et je pense qu'ils auraient dû d'abord adapter le comics et surtout revoir le gameplay.
On va parler maintenant à nouveau, parce que on a quelques news concernant Gears of War 3. Vous le savez, maintenant, il est confirmé. Il sortira l'année prochaine. Je crois que la date, si je me souviens bien, c'est le 8 avril 2011. Il s'agit d'une news qui concerne le coopératif, puisque apparemment il y aura cette fois-ci un coopératif à 4 joueurs dans la future campagne de Gears of War 3. Moi, je tenais à vous rappeler que dans le cas du Gears of War 2, il y avait déjà eu une annonce faite à l'époque, avant qu'il sorte, nous disant voilà, il y aura un coopératif à 4 joueurs, et tout le monde s'était dit c'est énorme, on va pouvoir jouer à 4 à la campagne, ça va être exceptionnel. Or, en fait, on avait juste eu droit, bon, c'était déjà pas mal, mais un mode Horde, qui est un très bon mode de jeu, mais qui n'est pas un vrai mode coopération. Et bien là, a priori, il y aura certainement aussi un mode Horde, mais il y aura un vrai mode coop à cette future campagne de Gears of War 3. Je voulais juste glisser ça en passant. Gears of War, c'est aussi un jeu qui peut se prêter aux jeux en team.
Absolument, il y a quelques matchs de team qui se font dessus sur des ladders donc spécialisés là-dessus.
Alors excuse-moi, mais je te coupe tout de suite. Ladder, c'est quoi ?
En fait, ce sont des sites qui sont spécialisés et qui organisent donc des tournois sur différents jeux, surtout sur des FPS.
D'accord. Donc en gros, ce sont des passerelles, sur... ce sont des passerelles qui permettent aux joueurs de s'inscrire et de participer à des tournois.
Voilà, absolument. Où les teams s'inscrivent.
D'accord. Okay.
Et elles se rencontrent entre elles. Il y a des championnats qui sont. Il y avait le ladder LGX qui était très très bien pendant très très longtemps, qui malheureusement a disparu.
Fermé.
À Nico et Philippe, vous allez voir, je suis un vrai noob dans ce domaine. Ouais, là, on peut le dire. J'ai pas honte. Voilà, bah, je vais découvrir ça aujourd'hui. Ça se trouve, dans quelques jours, je ferai partie de la team SDL. Qui sait.
Je vais glisser une petite info.
Vas-y.
Excuse-moi. Tu parlais de Gears of War 3. En fait, a été plus ou moins confirmé Uncharted 3, même si on s'en doutait. Vu le nombre de ventes et le succès de cette série, il s'agit de Nolan North, qui est la voix originale officielle de Nathan Drake, qui lors d'une interview a affirmé qu'il serait complètement stupide de la part de Sony de pas faire de suite. Donc logiquement, même s'il a pas droit d'en parler, voilà, il devrait y avoir un Uncharted 3.
Elle est un peu pourrie ton annonce, excuse-moi. À la limite, s'il avait dit ouais, je suis en train d'enregistrer les voix d'Uncharted 3, là, bah, elle est pourrie, j'ai rien contre ton... Ta découverte, hein, mais ta trouvaille. Mais en soi, enfin, t'es d'accord avec moi.
Ah, mais bon, on sait jamais.
Moi,
j'aime bien de dire. Tiens, voilà, Uncharted 3 va sortir.
Un petit rebondissement sur le 3. Il y a, à cause de tous les départs qui se passent à Infinity War,
On en a un petit peu parlé ouais. Hier, Nico. T'as pas dû écouter l'émission. Et justement, tu fais bien de parler, par contre, de Modern Warfare, puisque un podcast Game Radio sans une news concernant Modern Warfare ne serait pas un podcast Game Radio.
Il n'existe pas.
Et je laisse la parole à Shoham, qui avait justement la news Modern Warfare du jour.
Bah, comme Nico avait très très bien commencé à l'introduire, effectivement, bah voilà, la news du Modern Warfare du jour, il s'agit de la team d'Infinity Ward qui commence petit à petit à se désagréger, puisque presque 11 développeurs sont partis suite à au remerciement des deux patrons qui sont allés, donc, je rappelle, créer Respawn Entertainment pour Electronic Arts. Voilà, et donc je pense que ça commence à sentir le roussi pour Activision avec Infinity Ward.
À mon avis,
ça sent déjà le roussi depuis longtemps, je pense.
Affaire à suivre, hein, vous savez, c'est l'épisode quotidien Modern Warfare, la suite demain, certainement, je pense.
On devrait créer un jingle d'ailleurs, attention,
un petit jingle
Modern Warfare.
Pourquoi
c'est mieux
pas.
Que les feux de l'amour, ça.
Allez, on continue, on va parler maintenant un petit peu de l'iPad, hein, on le sait, l'iPad est sorti aux États-Unis maintenant depuis quelques semaines, quelques semaines. Il est donc dispo aux États-Unis. Il aurait dû être disponible à la fin du mois d'avril chez nous, en tout cas en Europe. Eh bien, Apple vient d'annoncer que la sortie internationale même de l'appareil serait décalée à la fin du mois de mai. Alors la raison, ce serait que les usines de production ont du mal à fournir déjà suffisamment d'unités, ne serait-ce que pour combler la demande des consommateurs américains. En gros, il y a déjà pas assez d'iPad aux États-Unis, donc on sera livré ensuite. Je pense que les Français et les Européens seront patients de toute façon. Je suis pas certain que l'appareil fonctionne aussi bien chez nous qu'aux États-Unis, a priori, vu les retours qu'on en a, en tout cas autour de nous, hein, ce que les gens en disent. Concernant le prix, a priori, il devrait être vendu en Europe aux alentours de 370€.
Pour le plus bas modèle.
Pour le plus bas modèle. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je crois que Shoham, par contre, tu voulais nous parler d'un jeu sur iPad.
Ouais,
qui serait donc le jeu le plus vendu sur l'iPad. Et il s'agit de Mirror's Edge. Je ne savais même pas que Mirror's Edge avait été adapté sur iPad.
Mirror's Edge a été adapté, alors non pas en FPS, comme on l'en connaît. Et on va dire qu'il a retrouvé un second souffle ce jeu, puisque comme tu sais, le jeu n'a pas eu le succès attendu sur les consoles de salon et sur PC. Donc ils l'ont adapté sur iPhone au départ, qui était pas non plus terrible, mais surtout ils l'ont adapté après sur iPad, et c'est l'un des jeux les plus vendus. C'est en 2D, on va dire en fausse 3D, puisque c'est en 2D 3D, et il s'agit de contrôler donc l'héroïne Faith, normalement,
ouais.
Et qui passe donc sur les toits sur plusieurs kilomètres, et il faut contrôler, dire à quel moment elle doit se baisser, elle doit se lever, et c'est comme un jeu de plateforme à la Mario.
Il me semble que c'est une version qui existe aussi sur PC, cette version 2D.
Peut-être en flash alors,
ouais, c'est encore autre chose.
Sur PC, c'est en FPS.
Hein. Et en ce qui concerne la jouabilité, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que ça prend en compte, par exemple, la capture de mouvement qui est intégrée à l'iPad? Tu le sais, ça?
Pas la capture de mouvement, mais en tout cas, ça prend bien les gestes que tu fais sur l'iPad. En tout cas, il a eu du succès. Hein.
Voilà, je crois qu'on en a terminé pour les news du jour, je pense. Sauf si Shoham nous en sort une petite dernière là de derrière les fagots.
Derrière les fagots.
Comme tu en as l'habitude.
Non, cette fois-ci, là, c'est bon.
D'accord. Ok, très bien. Donc, on va passer à la suite de cette émission. Et comme je l'ai annoncé dans le sommaire, nous avons, et vous le savez maintenant, il a pris la parole assez suffisamment pour que vous ayez remarqué qu'il était présent parmi nous. Il s'agit de Philippe de la team SDL, les soldats du live. On a la chance de le recevoir aujourd'hui dans notre émission. C'est l'occasion, bien entendu, pour nous, de parler plus largement du e-sport, hein, des teams et des championnats de jeux vidéo. Moi, c'est un univers qui m'est assez étranger, vous avez dû le remarquer, je l'ai dit, hein, je suis un vrai noob. Par contre, c'est un univers qui m'intrigue particulièrement, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, donc ça tombe très bien que tu sois parmi nous, Philippe, et c'est pour ça qu'on t'a invité. On va bien entendu parler aussi de la team SDL, de ce que vous faites. Alors, vous êtes, je l'ai déjà dit, une team qui œuvre principalement sur le Xbox Live, dans l'immédiat, hein, tu nous l'as expliqué, bientôt sur PS3. Vous attendez, oui, je crois, à la sortie de Gran Turismo avec grande impatience.
Absolument.
Vous jouez à plusieurs jeux, mais avec une grosse orientation vers la simulation automobile, puisque vous jouez et vous concourez actuellement, vous êtes plutôt là-dessus, sur le jeu Forza 3, qui est la simulation automobile de la Xbox 360, je le rappelle. Vous organisez régulièrement des championnats sur Internet, donc sur le Xbox Live, et votre dernier championnat, tu nous l'as dit, a rassemblé 160 joueurs, ce qui est assez considérable. Avant peut-être de parler de tout ça, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu la genèse de votre team. Je crois que c'est vraiment une histoire de famille. Je peux me tromper, mais je crois qu'au départ, c'est un papa et son fils, fans de jeux vidéo apparemment, et vous vous êtes lancé là-dedans.
Voilà, absolument. Donc on jouait donc sur un FPS, donc un Rainbow Six Vegas, donc qui est un excellent jeu. C'était en 2006, et puis on a décidé de monter une team. On a rencontré un joueur, deux joueurs, trois joueurs, et c'est monté comme ça. Mais on n'avait pas du tout de site internet ni de forum. Et puis ensuite, avec mon fils Kevin, on a décidé de s'agrandir un peu et d'ouvrir un forum. En
fait. Alors, avant de parler de tout ça, moi, ce qui me surprend, on peut révéler ton âge, je pense, ça te dérange pas? 47 ans, gamer de 47 ans avec un fils qui en a 21. Moi, je trouve ça génial qu'un papa et son fils déjà jouent au même jeu. Je sais pas comment vous êtes équipés chez vous. Peut-être que ton fils a son appartement, peut-être qu'il vit dans son coin, mais j'imagine.
Non, il est encore à la maison, il est encore là.
Ah, d'accord. Alors, comment est-ce qu'on vit ça à la maison déjà?
C'est
deux télé HD, deux consoles Xbox, deux jeux, autant de manettes. Comment ça se passe?
Ouais, voilà, il y a plusieurs consoles Xbox. Il y en a pas que deux. On sait jamais, ça peut tomber en panne.
Ah oui. Moi aussi, j'ai pris les devant à ce niveau-là. Oui, pardon, vas-y.
Il y a deux PS3 également. Bon, lui est équipé dans sa chambre, moi je suis équipé dans une pièce, etc. Mais c'est vrai qu'on a toujours été assez complices de par le sport automobile, les courses de karting que faisait avant mon fils. On était très très complices l'un et l'autre. Et on a gardé cette complicité dans les jeux vidéo, parce que moi, depuis l'âge de 18 ans, j'ai vu les premières consoles comme les Mattel, la télévision, toutes ces premières consoles qui sont sorties, que je possède toujours, parce que j'ai une collection de toutes ces consoles que j'ai eues auparavant. C'est une vraie passion, et bon, pour avoir une bonne passion aussi, bien sûr, il faut que la maman et l'épouse, ça ne la dérange pas qu'on puisse passer des soirées entières, voire des nuits à jouer, et de ce côté-là, il n'y a pas de problème, donc c'est vraiment une histoire de famille.
D'accord, tu es un gros vénard, et je le suis aussi. Je tiens à le dire, ma femme joue aux jeux vidéo, elle me bat d'ailleurs régulièrement sur pas mal de jeux. Bref, c'est un autre débat, c'est une autre histoire, et on fera un jour cette fameuse émission sur ma femme est une gameuse, comme on l'a promis plusieurs fois, à plusieurs reprises dans des podcasts. Donc, vous êtes organisé en team progressivement, la team SDL est née donc en 2006, hein, c'est bien ça, sur Rainbow Six Vegas, et donc on l'a bien compris, passionné de sport automobile. Quand Forza 3 est arrivé sur la 360, je pense que vous avez sauté dessus, et là, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que vous êtes dit, tiens, on devrait se mettre à l'e-sport là-dedans aussi.
Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, on est d'abord passé sur une simulation qui est arrivée donc sur la Xbox 360 qui s'appelle Rise Pro, qui était une simulation qui existait déjà sur PC avec laquelle on jouait déjà depuis longtemps et où on avait également une team et où mon fils faisait déjà des championnats sur ce jeu. Donc quand il est passé, ce jeu est arrivé sur la Xbox, on a décidé donc de monter une équipe sur ce jeu et on a créé donc un nouveau site. Et on a monté un petit championnat, mais bon, c'était vraiment un tout petit championnat parce qu'on était très peu à jouer, on était 12 pilotes. Mais c'était le début en fait de la team SDL, mais on va dire sur la compétition simulation automobile sur la Xbox avec Rise Pro.
Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait le moment où vous êtes vraiment organisé en team avec un vrai site internet, avec la création de vrais championnats, c'est avec Forza 3.
Ouais, absolument. Pour leur sortie de Forza 3, on a décidé donc de monter, d'ouvrir un nouveau site et un nouveau forum et donc de rassembler un maximum de joueurs, de recruter dans notre team des joueurs plus par la sympathie, le fair play que par le talent, mais surtout de pouvoir proposer à des joueurs des parties, des tournois et des championnats avec une très très bonne ambiance. Et c'est comme ça que vraiment l'aventure a grandi. C'est à la sortie de Forza 3 donc qu'on a, on va dire, franchi une étape supérieure.
Je crois que vous êtes à peu près 60 membres aujourd'hui, membres, j'entends, membres actifs, hein, de personnes qui jouent, qui font partie de la team et qui participent au championnat.
Alors voilà, donc en fait on est 60 membres, donc un membre pour, qu'est-ce que ça veut dire membre d'une team, on a trois lettres devant notre gamer tag, hein, donc c'est SDL, donc qui veut dire les soldats du live, moi sur par rapport à nos débuts sur Rambo, et on n'a pas changé de nom, donc on est un peu plus de 60 joueurs officiels de la team, mais on est sur le forum actuellement 460 membres inscrits.
D'accord, donc c'est qui les autres? Ce sont des personnes qui vous suivent, qui sont simplement curieux ou fans de votre team ou qui s'intéressent à ça? Comment est-ce que tu expliques qu'il y ait autant de monde comme ça qui s'intéresse à vous?
Donc ce sont des joueurs qui font partie de team, également d'autres teams, hein,
d'accord,
pas de la team SDL, qui participent à nos championnats et qui viennent jouer avec nous par rapport aux championnats qu'on organise, parce qu'on, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a de très peu de personnes qui organisent des championnats sur Forza. Il faut savoir qu'il y a le championnat de France qui est organisé par Cibulle, donc qui fait donc un gros championnat où ça a regroupé au départ 3000 joueurs. Et ensuite, parallèlement à ça, il n'y a pas du tout d'autres championnats organisés. On a beaucoup de joueurs d'autres teams qui participent également au championnat de France. Il faut reconnaître que sur notre championnat Clio Cup, on a pu rassembler une grosse partie des meilleurs joueurs français et étrangers. Parce que, pour la petite histoire, il faut savoir que pour le championnat DTM qui va commencer d'ici peu de temps, on a 3 pilotes canadiens et 9 pilotes belges qui nous ont rejoints sur les 160 inscrits.
Bah oui, forcément, grâce à Internet, aujourd'hui, on peut monter facilement une écurie internationale. C'est pas trop compliqué.
Excuse-moi. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour être donc faire partie de la team? Qu'est-ce qu'il faut pour arborer les couleurs de SDL?
Alors c'est une super question, absolument, parce que quand on veut rentrer dans une team, il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'il faut d'abord bien jouer, il faut à la base donc être un excellent pilote, il faut bien sûr avoir donc 800 points pour pouvoir modifier son gamer tag et donc rajouter les lettres qu'il faut pour faire faire partie officiellement de la team, mais nous on voit ça différemment. Nous on regarde pas la qualité, on va dire le talent du joueur. Nous ce qu'on veut, ce sont des joueurs sympathiques qui se tiennent bien sur les parties du live, parce que au niveau surtout des FPS, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, et malheureusement des fois je pense que
Jeunes, et je connais des moins jeunes aussi qui s'énervent pas mal hein sur le Xbox
oui,
Live.
Oui, au niveau des insultes et tout, il y a des moins jeunes aussi qui s'énervent, c'est vrai. Oui, oui, oui. Mais quand je parle des jeunes, bon, de 13, 14, 15 ans, des fois c'est un peu plus dur donc à pouvoir gérer dans une équipe. Et c'est vrai que nous ce qu'on cherche, on a des jeunes de 14 ans jusqu'à des vieux de 47 ans comme moi, mais ce qu'on veut surtout, c'est du fair play, de la bonne humeur. Donc pour rentrer dans la team SL, voilà ce qu'on veut. On veut des personnes qui vont participer au forum et qui soient surtout super sympathiques avant la qualité de jeu et avant les résultats.
Pour aller plus loin que cette histoire de recrutement, est-ce que c'est presque... Moi, j'avais une vision très militaire de la chose. Alors, peut-être que certaines teams fonctionnent comme ça. On voit souvent sur Internet, justement, dans le cadre de recrutement, des formulaires à remplir, des... Voilà, comme tu dis, il faut montrer patte blanche. Pas vous concernant, mais chez vous, apparemment, c'est très différent. Donc, mais malgré tout, comment est-ce que vous faites connaissance avec les gens pour sentir, savoir si, justement, ça va bien se passer? Est-ce qu'il y a une période d'essai? Comment ça se passe?
Alors moi j'avais plutôt tendance au début à, dès que la personne était sympathique, au bout d'une heure de jeu, absolument, écoute, si tu veux venir dans la team, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème, tu as juste ton gamertag à modifier et bienvenue avec nous. Donc j'ai recruté des joueurs qui m'ont dit, Philippe, on commence à être une quarantaine maintenant, on va commencer à monter, donc il faudrait faire attention. Donc depuis, bon maintenant on est presque 70, on fait une petite période de test. Mais le test, c'est donc moi j'ai des personnes qui sont dans la team qui sont responsables du recrutement, et leur but à eux en fait, c'est de passer des soirées avec ces personnes-là et de voir juste leur comportement, mais pas sur la piste au niveau de savoir s'ils font un bon chrono. C'est surtout quand on va les doubler, s'ils vont pas nous empêcher de les doubler et de nous mettre dans le bac à sable, ou si c'est sur du Call of Duty, comment ils vont se comporter s'ils se font tuer un peu trop souvent dans la partie et s'il y a pas trop d'insultes. C'est un peu le feeling, mais on va le faire sur 2, 3, 4 soirs, et ensuite à partir de là, ils font partie de la team et ils nous intègrent, ils intègrent l'équipe.
C'est déjà arrivé que vous refusiez quelqu'un ou vous viriez un membre que vous aviez pris?
Alors ça va arriver là, malheureusement il y en a deux qui vont partir.
Pardon, vas-y, excuse-moi.
mais de la team non. Par contre, pour notre championnat DTM, j'ai une liste de 20 joueurs qui ont participé au championnat Clio Cup, et malheureusement de team qui sont interdits de championnat chez nous.
Moi je voulais me retourner vers Nico, je voulais avoir son avis. Lui-même fait partie d'une team, est-ce que vous fonctionnez de la même façon, ou est-ce que tu sens déjà que chez SD il y a peut-être une ambiance un petit peu différente, à part ton opinion?
Non, chez nous c'est un peu le même fonctionnement. Quand quelqu'un nous demande de rentrer dedans, on l'évalue, on regarde s'il joue bien, s'il est sympathique, s'il insulte les autres joueurs quand il se fait tuer, ça c'est un critère assez
Après moi j'ai radical. Excuse-moi de te couper, j'ai eu la chance de participer à on avait fait un mode c'est pas horde,
sur Halo
sur Halo DST avec une personne de ta team. Moi j'étais là pour m'amuser, lui aussi mais s'amusait pas vraiment comme moi hein. C'était quand même ça doit être un haut gradé de ton équipe hein. Mais alors il fallait que je me mette là, il faut faire ci, attention les gars.
C'est que quand sur la partie il y avait un enjeu, tu sais, il fallait faire le succès avec 200 000 points, et donc on aime bien
d'ailleurs on a réussi, mais après
quand on joue entre nous, quand il y a aucun enjeu, c'est on joue comme je joue avec toi souvent, on rigole tout ça, mais après quand on passe pendant un match, je pense que dans la team SDL c'est pareil, dans les matchs de FPS, le mental change complètement, et c'est la gagne. Donc ça veut dire il y a des positions à respecter. Si le mec est pas bien, c'est un mauvais point pour lui pour la prochaine fois. Et donc au final, oui, il y a un petit peu un truc militaire, mais bon, faut pas non plus tomber dans la paranoïa.
Ouais, d'accord. Donc si on monte sur des voitures à l'effort des deux, c'est pas bon quoi.
Voilà, pour faire
c'est
du
ma
bruit,
spécialité. Oui, pardon. mais je le fais exprès.
Est différente. En fait, c'est vrai que sur un FPS, donc ça va être par équipe. Moi, je me rappelle sur un beau, on passait des 2-3 soirs par semaine à s'entraîner avant un match officiel de Leader, comme on en parlait tout à l'heure. Concernant Forza, c'est une course individuelle. Donc automatiquement automatiquement, si le copain d'à côté sort de la piste, ben le joueur lui-même, on va pas dire qu'il est content, mais presque quoi. Donc il y aura pas de dispute entre eux.
Course individuelle, excuse-moi de te couper. On peut pas utiliser l'aspiration, par exemple, pour permettre à quelqu'un de son équipe de prendre de la vitesse, de pouvoir passer en tête. Ça existe pas, ça?
On peut, mais dans les équipes, ouais, il y a quelques pilotes qui sont un peu au-dessus, et après, donc on n'a pas pu encore former de course d'équipe, parce qu'il y a quand même une différence de niveau par rapport à certains pilotes.
Voilà. Moi, je voulais savoir aussi comment s'organisent ces matchs concrètement. Moi, ça me paraît dingue d'arriver à mettre en place le fait déjà de se retrouver à telle heure, tel jour, sur le live, de contrôler ça aussi. Comment est-ce que vous faites pour réussir à organiser ce machin virtuellement? Moi, c'est un truc qui me dépasse. Alors, explique-moi.
Ce qui nous concerne, c'est assez simple. Donc, on a un règlement, un calendrier avec des dates. Donc, les personnes savent à telle heure, tel jour, donc ils ont leur course à faire, enfin leur compétition. Ensuite, il y a un hoster, donc il y a une personne qui va créer la partie. Et cette personne-là, donc, c'est soit qu'on a choisi comme hoster, donc c'est lui qui va donc mettre en place tous les paramètres de la partie.
Une sorte d'arbitre, quelque part.
Arbitre, pas vraiment, non. C'est lui qui va créer la partie, qui va mettre les paramètres. Ensuite, il va inviter, donc il aura pris dans sa liste d'amis auparavant tous les pilotes et tous les joueurs qui doivent passer la soirée avec lui, et il va les inviter au fur et à mesure à les rejoindre. Voilà.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que arbitre, dans le sens où toute la confiance de la partie, elle est mise en lui, c'est-à-dire que il va devoir quand même contrôler les résultats à l'arrivée, j'imagine, et
nous, pour notre championnat Clio Cup, j'avais mis en place des responsables de division, qui étaient des joueurs, bien sûr, de la team Ezel, qui devaient contrôler tout ce qui se passait, et après chaque course, on devait donc leur envoyer une vidéo, un compte-rendu et des photos de la course pour qu'on puisse également l'intégrer pour le classement et surtout pour notre magazine, pour le Ezel Mag.
D'accord, d'où un des avantages de Forza Motorsport 3 qui permet justement de filmer ses exploits sur le live.
On peut sauvegarder, oui, on peut sauvegarder les ralentis, les récupérer, faire après les montages vidéo, ce qui est hyper intéressant.
Okay. Moi, j'avais une notion que je voulais te poser la question, parce que c'est une notion qu'on a dans les guildes, notamment sur World of Warcraft, sur PC. Est-ce qu'il y a une notion de, il faut participer à des courses ou avoir un quota de courses à faire pour rester dans la team?
Non, pas du tout. C'est sûr que quand on organise un championnat, nous-mêmes, la team SDL, et qu'il y a un membre qui ne participe pas au championnat, ça nous fait un petit peu, ça nous gêne un petit peu. Mais après, il y a la vie privée qui est importante, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, donc il n'y a pas une obligation, mais on préfère bien sûr qu'ils participent avec nous. Mais ce qui est très important, ce qu'il faut savoir, c'est dans des courses comme Forza, c'est un petit peu comme dans les FPS, il y a beaucoup d'entraînement et de mise au point. On a également dans notre team des metteurs au point, et il y a beaucoup de temps passé avant les courses, même beaucoup plus de temps passé à régler la voiture et à s'entraîner qu'à faire la course.
Mais alors justement, ce temps passé, cet investissement qui me semble énorme, c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse, hein, on le répète une nouvelle fois, sur Game Radio, on aime bien justement s'intéresser aux personnes comme vous qui passaient vraiment du temps, qui allaient au-delà du jeu et qui vraiment donnaient du temps à ça, à votre passion. Moi, j'imagine que ça doit prendre des heures, justement, je parle pas que de l'organisation. Combien de temps, par exemple, toi et ton fils, vous passez à vous entraîner, à jouer et à préparer tout ça?
À jouer et à s'entraîner, on n'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais je sais qu'il y a des pilotes qui passent beaucoup de temps en moyenne pour préparer une course qui a lieu le lundi soir, parce que nos courses de championnat ont lieu le lundi soir. Ils vont rouler à peu près 3-4 jours par semaine, 2 heures par jour, 2-3 heures à régler, à mettre au point la voiture et à prendre le circuit, pour ceux qui veulent à peu près être bien classés dans les courses. Ensuite, concernant tout ce qui est donc préparation, c'est beaucoup de travail, mais on a beaucoup délégué, donc chacun sa partie à faire.
Et alors, est-ce que vous avez des mécanos, des mecs qui touchent leur bille justement en customisation de caisse, qui vont vous dire, vous donner des conseils peut-être aux autres, qui savent quel élément il vaut mieux installer, comment est-ce qu'on fait sur telle course pour réussir à faire un bon chrono? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez au sein de votre team?
Absolument, c'est la grosse différence qui se fait avec les grosses teams au niveau national, parce qu'il existe des grosses teams qui ont d'excellents metteurs au point, et la différence se fait là. Donc nous, on a des personnes qui sont pas obligatoirement les meilleurs pilotes au niveau rapidité sur un tour, mais qui règlent très bien leur voiture, et donc ils nous font la mise au point, et ensuite on fait appel à nos meilleurs pilotes qui vont tester ces réglages pour confirmer si vraiment ce sont les réglages qu'il faudra utiliser ou pas.
Forza permet aussi, et c'est un des points un point clé de ce jeu, c'est une très belle réussite de customiser non seulement bien entendu ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture, mais ce qui l'entoure, l'enrobage, la robe, je sais pas si on dit la robe pour une voiture, la carrosserie,
absolument.
On peut mettre sa couleur aux couleurs de ce que l'on veut. D'ailleurs, vous avez créé une voiture Game Radio, parce que Game Radio est devenu partenaire de SDL. Vous nous avez demandé certaines choses, on n'a pas pu vous sponsoriser, on n'a pas les moyens de le faire. En tout cas, on vous a proposé de participer à cette émission et peut-être à d'autres. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire régulièrement. Vous reviendrez à nous expliquer un petit peu comment vous évoluez et peut-être comment évoluent vos championnats. Vous nous donnerez des infos vous concernant. En contrepartie, Game Radio a réussi à avoir sa propre écurie sur Forza. Nous avons une voiture Forza Motorsport 3 et ça fait un sacré choc. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais scotché. J'ai fait waouh, qu'elle est belle. J'étais fier comme tout. Merci en tout cas d'avoir créé ces caisses. Peut-être quelques mots justement sur ces voitures Game Radio bien entendu et d'autres.
Ben nous donc on a des metteurs au point dans l'équipe. On a également ce qu'on appelle les nous on les appelle les peintres, mais on peut donc ils sont des créateurs de logos, mais on peut les appeler de noms différents. Et hier on a annoncé donc le partenariat qu'on allait faire donc avec vous. Tout de suite tout le monde était très très content et il y a trois personnes qui ont travaillé donc à refaire le logo de Game Radio. Le plus dur à faire était le dégradé des lettres, parce que c'était un peu difficile à faire avec le logiciel qui est fourni dans le jeu Forza, mais il y a une personne qui est arrivée à le faire et tout le monde était content. Et on a donc créé, il y a les voitures qui vont être aux couleurs dans le 100% Game Radio, mais toutes les voitures, les 40 pilotes qui sont inscrits au championnat DTM, les 40 pilotes SL, donc auront tous un logo Game Radio sur leur voiture. Mais ils sont tous très très contents et très fiers de le porter. Ça leur fait ils sont contents. Tu parlais de sponsoring tout à l'heure, mais pour nous le fait de passer à l'émission, de pouvoir parler de notre passion, c'est une manière donc de nous sponsoriser, et tout le monde était très très fier de pouvoir mettre Game Radio sur leur voiture. Et vraiment c'est un super geste ce que vous avez fait.
Oh c'est rien du tout, moi je suis ravi. En plus tu me verrais, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles là, je t'écoute, je suis super content aussi. Moi c'est un bonheur, enfin voilà, on rentre dans le virtuel, on a des voitures il y a des voitures Game Radio. Moi je trouve ça énorme, je sais pas ce qu'on pense Nicolas et Choam.
Moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de radios qui est capable de faire on a une écurie Game Radio. C'est, je pense pas qu'il y ait beaucoup de radios ou de sites qui peut le faire, donc moi aussi je suis extrêmement fier.
Je voulais aussi qu'on s'attarde quand même sur les championnats que vous organisez. Bien entendu, t'as parlé donc de la Clio Cup, je crois qu'il y a la FIA GT, je sais pas si je le prononce bien, maintenant DTM. C'est un peu obscur pour moi, est-ce que tu peux nous détailler ce qui va se passer au sein de SDL là dans les semaines, les mois qui viennent au niveau des championnats?
On va plus parler du Clio Cup parce qu'il est terminé, mais ça a été un gros succès. Juste avant, on avait fait 2-3 championnats. On avait également créé, je vais quand même dire un petit mot, une petite course d'endurance qui s'appelait les 48 Tours du Mans, qui a eu un gros succès parce qu'on avait fait donc une équipe de 2 pilotes, sachant qu'on peut jouer qu'à 8 pilotes en même temps. Donc chacun était dans une partie donc différente. Ensuite, on a additionné les temps par équipe des 2 pilotes pour faire un classement, et les 2 pilotes étaient reliés en chat privé. Et ça a eu un énorme succès. Et ce qui avait vraiment plu, c'était que pour le montage des équipes, on avait fait un tirage vidéo pour pouvoir assembler les 2 pilotes. Donc c'est quelque chose, une expérience que l'on va refaire au niveau de la course d'endurance. Concernant donc notre championnat DTM, on s'est appliqué donc à refaire donc comme le vrai championnat DTM qui a lieu donc en 2010, et on a regroupé donc les 2 voitures qui sont autorisées dans ce championnat, qui sont les 2 marques, donc qui sont Mercedes et Audi.
Oui.
Donc ensuite, il y a eu une séance chronométrée sur un circuit et une voiture imposée sans réglage possible. Les chronos ont lieu actuellement et vont se terminer le 18 à minuit, donc dimanche qui arrive. Et ensuite, avec le relevé de ces chronos, on va répartir les pilotes dans différentes divisions. Donc les 8 premiers seront dans la première division et ainsi de suite, jusqu'à donc former plusieurs divisions pour arriver à regrouper donc les 160 pilotes.
Alors moi j'étais en train
de... c'était Sonic le premier de faire le meilleur temps.
Oui, donc le fils de Philippe, bravo. Félicitations voilà. Sonic, à propos pour tes temps.
Merci pour...
Moi je t'écoutais et moi ce qui me ça peut être un petit peu c'est un vrai jargon, faut s'y connaître un petit peu en bagnole et en course automobile quand même, ce qui n'est pas malheureusement vraiment mon cas, mais moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en gros on vous a offert, enfin Forza existe, et vous êtes allé au-delà du jeu, c'est-à-dire que non seulement vous jouez à Forza, mais vous êtes allé plus loin. Parce que je pense que vous vous amusez, c'est surtout ça. C'est un jeu dans le jeu. C'est aller au-delà du simple fait de se relier au Xbox Live et de jouer avec son véhicule. Il y a tout l'à côté qui est un jeu en lui-même.
Oui, absolument. On a créé une vraie communauté de joueurs et on prend vraiment beaucoup de plaisir entre nous et c'est ça qui est très fort, quoi. Concernant nos soirées, donc ensuite ça va se passer de la façon suivante. Donc on va avoir 2 courses qui vont durer à peu près 30 minutes. À la suite de ces 2 courses, il y aura un classement donc qui va être déterminé, et le premier de chaque division montera de 2 divisions, le deuxième et le troisième monteront d'une division, Le quatrième et le cinquième restera dans sa division. Le sixième, septième et huitième descendront de division. Voilà comment se passe un championnat sur Forza, comment c'est organisé par nous-mêmes. Et c'est également le même système qu'ils ont organisé pour faire le championnat de France sur Forza.
D'accord.
Petite question, je voulais savoir, je vois que sur le site, chaque joueur marque son chrono. Donc ça joue beaucoup sur le fair play, non? Où il faut mettre une preuve à l'appui.
Il y a le fair play, oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc ce que je fais régulièrement, c'est que dès qu'un joueur donc a rentré son chrono, je vais contrôler donc sur le Xbox Live le temps qu'il a fait, et surtout si les paramètres qu'on a imposés pour notre règlement ont été bien respectés au niveau des aides pour la conduite, etc., de l'indice de performance de la voiture qui est délimité, les pièces qui ont bien été respectées, parce que on ne peut pas arriver avec une voiture et puis la gonfler entre guillemets, une voiture qui fait 200 chevaux de plus qu'une autre ou même 50 chevaux de plus. Il faut qu'elle soit toute de la même puissance. Après, chacun peut régler sa voiture. Donc moi, je vais contrôler et je valide les chronos s'il n'y a pas eu de souci.
Nico, tu parlais du fair play, justement. J'avais envie qu'on parle de vos concurrents. Vous n'êtes pas la seule team, hein, bien entendu. Il y en a d'autres et peut-être qu'on en recevra d'autres sur Game Radio, hein, qui viendront nous parler aussi de ce que eux font et de comment est-ce qu'ils vivent le e-sport, hein, puisqu'il s'agit bien entendu de e-sport. Le fair play, les rapports justement avec les autres teams, est-ce que il y a un bon esprit? Comment ça se passe? Est-ce que par moment, au contraire, il y a une vraie rivalité?
Bah, malheureusement, ça se passe pas très bien. Pour la petite histoire, je voulais pas trop en parler, mais je pense qu'on est là pour justement parler de tout et dire la vérité. Au début, donc Sonic s'était inscrit donc au championnat de France, avait donc sur les 3000 joueurs avait réalisé un temps dans les 15 premiers. Et puis
ce que va dire Philippe n'engage que lui, hein, je tiens à le dire. On n'est pour rien sur Game Radio. Je veux pas perdre des auditeurs.
Game Radio et bon, ça s'est pas très très bien passé. Il n'y a pas eu une très très bonne ambiance avec les deux grosses teams, on va dire mondialement connues sur Forza. Et du coup, pour pas ternir l'ambiance de ce championnat, Sonic et moi, on a préféré quitter ce championnat. Mais on a continué à promouvoir toute la team SDL et à les aider à participer à ce championnat de France. Et il y en a toujours qui sont inscrits. Voilà. On a eu des teams qui sont venus à notre championnat Clio Cup, qui n'ont pas trop apprécié certaines choses, et des chefs de team qui ont dit à leurs pilotes quitter ce championnat tout de suite. C'était un peu leur donner un ordre, quoi, voilà. Donc c'est vrai que de temps en temps, il y a des teams entre elles qui ça ne se passe pas très bien, mais c'est pareil sur les FPS, c'est la même chose.
Et justement, Nico, ton avis là-dessus, toi aussi, tu viens un peu la même chose?
Ouais, ça peut se passer souvent, ça se passe vraiment bien, donc tout le monde est fair play, même quand tu perds, tu sais reconnaître la valeur de l'autre, mais des fois, malheureusement, certaines équipes utilisent des moyens qui sont pas très fair play, pas très dans l'image du jeu, et donc qui donnent pas vraiment envie de jouer, comme dans les FPS, souvent les tirs de pression dès le début, ou les genres de trucs, c'est pas vraiment amusant, ça permet de gagner, mais bon, au final, mais certains ladders, sur internet propose une section d'arbitrage, c'est-à-dire qu'on expose le problème à une personne tiers qui peut régler ça en fonction de ce qui se passe. Mais j'ai déjà vu des parties qui au final se sont terminées en insultes, et s'ils étaient en face, il y aurait eu bagarre. Mais là, c'est souvent triste, mais ça arrive, ça fait partie.
Ouais, j'ai une petite question pour toi, Philippe. Oui. Concernant justement les concurrents, est-ce que la triche, c'est vraiment un fléau, ou vous arrivez quand même à faire un bon arbitrage et à avoir des championnats propres?
Oui, on arrive à avoir des championnats propres. On a également, donc, après avoir les metteurs au point, les peintres, etc., on a les commissaires de course, hein, chez nous. Donc, après chaque course, il y a eu un problème, le pilote a donc un laps de temps prédéfini dans le règlement pour porter réclamation. Ensuite, il envoie la vidéo qu'il aura gardée pour signaler le problème qu'il y a eu pendant la course. Et ensuite, les commissaires de course, donc, vont prendre eux-mêmes leurs décisions. Moi, je rentre pas du tout en ligne de compte là-dessus, même si ça me concernait moi ou même mon fils, hein. Je veux dire, on n'a rien à dire là-dedans. S'il y a eu faute commise, ben il y a pénalités qui vont être donc appliquées sur le joueur. Pour revenir juste aux ambiances de team, il y a des teams avec lesquels ça se passe très bien, parce que dernièrement, on a eu une team qui nous a demandé si on pouvait fusionner, s'associer avec eux justement pour travailler beaucoup plus vite au niveau de la mise au point et des réglages des voitures, parce que c'est surtout là où il y a beaucoup à faire, quoi, voilà. Mais sinon non, on arrive vraiment à bien gérer sur le championnat Clio Cup qui a regroupé donc 160 pilotes sur 6 courses. On avait avait 3 manches à ce moment-là par soirée, donc ça représentait beaucoup de courses. On a eu 5 réclamations et ça s'est très bien passé.
Pour conclure peut-être ce sujet sur la team SDL, il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire, mais on aura l'occasion, c'est ce que je dis tout à l'heure, de vous réinviter plus tard à nouveau et à plusieurs reprises je pense. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs par exemple, s'ils sont intéressés, ils viennent vous voir, vous recruter, qui viennent s'inscrire sur le forum, qui s'intéressent peut-être à l'e-sport, à vos championnats, qu'ils vous suivent, qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Voilà, absolument, ben, on va faire une petite annonce, hein. On va en profiter. Voilà, s'ils veulent nous rejoindre, ben, donc ils viennent directement sur le site, hein. Il y a le lien qui est mis donc sur le site donc de Game Radio. Ils se présentent sur le forum, c'est très important parce que bon, on tient beaucoup à connaître un petit peu les gens, et ensuite s'ils veulent nous rejoindre, ça sera donc avec un grand plaisir. On a beaucoup de besoins concernant par exemple des spécialistes sur Photoshop pour notre SDL Mag. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, ça sera avec plaisir.
Oui, on n'en a pas parlé beaucoup du site, effectivement le site est assez jeune encore, mais vous avez mis en place déjà pas mal de choses. Il y a des projets, une entre guillemets web TV, en tout cas des podcasts vidéo, un magazine effectivement interne à la team, donc ça c'est une très bonne chose, c'est pas mal si vous arrivez à le mettre en place. Donc effectivement, si vous avez envie de rejoindre cette équipe et de participer à tout ça, si ça vous passionne, n'hésitez pas à aller les voir. Moi je commence un petit peu à les connaître, hein. J'ai discuté avec toi et puis je suis allé sur le forum m'inscrire justement, et j'ai eu un accueil, j'étais halluciné, tout le monde m'a dit bonjour, j'ai eu en rien de temps 60 personnes je crois qui m'ont dit bonjour, et vraiment ça fait plaisir. Donc très très bon esprit, ça je le confirme.
J'ai en profité pour remercier un peu nos partenaires, parce qu'on a un site qui s'appelle ForzaMotorsport3.net qui a fait beaucoup de publicité concernant nos championnats. On a également un site donc qui est spécialisé dans tout ce qui est compétition, simulation auto moto sur console, c'est x360racer.com. Donc qui est un super site, et puis on a un petit magasin de Tokyo, un petit magasin japonais, qui ont un site qui s'appelle neoamusement.com, qui va nous envoyer des lots pour récompenser les participants du championnat des TM.
Dernière question concernant à nouveau la voiture Game Radio, c'est-à-dire que demain, moi, je me mets sur Forza, je peux très bien croiser lors d'une course une voiture aux couleurs de Game Radio.
Absolument, voilà. Déjà, tous les membres de la team SDL entre guillemets obligation, hein, de laisser Game Radio sur leur voiture, mais pas uniquement pendant notre championnat, surtout quand ils vont jouer sur le live avec tout le monde, parce que dans notre championnat on est 160, mais quand ils vont jouer 2-3 heures par soir un petit peu partout, c'est là où on voit la voiture, on la voit le plus, et donc on leur a demandé à tous nos membres de laisser Game Radio sur la voiture. Donc ça se peut qu'un soir tu vas jouer sur une partie et tu rencontres une voiture Game Radio.
Et ça me ferait bizarre. En tout cas, quelle classe, j'en suis moi ravi, et vraiment je m'en remettrai pas, je crois. Très bien. Bah écoute Philippe, je sais pas, on a peut-être pas parlé de tout. Merci d'être venu participer à cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation à la team SDL. On aura l'occasion, bien entendu, je l'ai déjà dit, sur Game Radio, de revenir vers vous, et vous reviendrez donc régulièrement nous voir pour nous dire un petit peu ce qui se passe. Voilà, vous nous direz ce qui se passe de votre côté. Les portes de ce podcast vous sont grandes ouvertes.
Merci beaucoup. Alors, merci à vous trois, et puis bonne continuation surtout pour cette excellente radio, et on va tout faire pour essayer nous de notre côté la promouvoir, et puis on sait que vous de votre côté vous allez continuer à faire d'excellentes émissions. On va vraiment passer encore de bonnes soirées, et je peux vous assurer que la plupart de nos membres vont maintenant s'inscrire sur votre forum et puis écouter régulièrement vos émissions.
J'ai remarqué qu'il y avait un gros arrivage de SDL sur Game Radio. En tout cas, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. J'invite les auditeurs Game Radio, bien entendu, à venir visiter votre site, et puis pourquoi pas aller plus loin, s'engager avec vous dans l'aventure SDL s'ils le souhaitent. Je voulais rajouter une petite chose avant qu'on se quitte. Je ne peux pas ne pas prendre quelques minutes dans cette émission sans remercier à nouveau quelques personnes. Alors hier, j'ai déjà salué les nouveaux venus, hein, ceux qui découvrent peut-être Game Radio actuellement et qui nous ont rejoints, dont les SDL bien entendu. Je vais aujourd'hui remercier tous ceux qui connaissent Game Radio depuis plus longtemps et qui nous écoutent depuis maintenant plusieurs mois. Merci pour votre confiance et votre fidélité, et je terminerai en vous signalant que Game Radio est plus que jamais votre radio. En effet, pour la première fois, et c'est assez inattendu, je ne m'en remets pas non plus, eh bien notre serveur va être payé dans sa quasi-intégralité par vous, les auditeurs. Il s'est passé un truc assez incroyable et extrêmement encourageant pour nous. En moins de 2 jours, vous avez été 4 à nous faire parvenir des dons, et le montant de ces dons couvre l'intégralité du serveur. Je crois que Nico Elchoa ne le savait pas. vous la prenez.
Non, alors là, je suis
plus coaché. Hein.
Ouais, moi aussi. Voilà. Et au-delà de l'aspect financier, hein, même s'il est important, pour Game Radio, c'est une forme vraiment de reconnaissance et de soutien dont on a besoin réellement. Et pour moi, en tout cas, c'est même une sacrée leçon puisque je suis en train de découvrir que Game Radio a plus que des auditeurs, mais de vrais amis. Et moi, ça me fait un plaisir immense et ça me donne envie de continuer, de ne pas arrêter, de vous en donner plus. Donc,
Que tu peux les citer en fait, les personnes peut-être. Non.
Oui, je vais les citer. Donc il y a Wonder.
D'accord.
Voilà. Donc je parlais déjà d'Interlope Junior hier. Maintenant, il y a Wonder, Mitas et Puchico. Voilà, que je remercie vraiment pour ce geste surtout symbolique. En tout cas pour moi, pour nous, ce geste symbolique. Et d'ailleurs, dernière chose, sur le forum Game Radio, j'ai rajouté une rubrique qui apparaît donc maintenant sur le forum. Vous pouvez y aller, c'est déjà en place. Où il y a le, je mettrai au fur et à mesure s'il y a d'autres dons. Hein. Je fais pas un appel aux dons forcément, mais dans le cas où ça arriverait, il y a une rubrique maintenant qui s'appelle contributeurs ou contributions. Voilà, en tout cas apparaissent les pseudonymes des personnes qui ont contribué maintenant à l'aventure Game Radio en faisant un don notamment. Je savais pas quoi faire de plus pour les remercier. Donc
le mur qu'on avait après les jeux d'arcade où tu mettais ton, où tu pouvais marquer ton nom, le mur des célébrités.
C'est un petit peu ça, voilà, c'est ça.
Un peu notre mur des célébrités.
Voilà. En tout cas, je savais pas quoi faire de plus pour les remercier. Espérons en tout cas que le fait de continuer à enregistrer ces émissions suffiront à vous remercier et à vous encourager à continuer à nous suivre. Voilà. Bon, bah, c'est la fin de ce podcast. Je crois que on va en rester là pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain en direct du musée du jeu vidéo, je le rappelle, pour un nouveau podcast Game Radio. Shoam, à demain. Nico, à demain. Philippe, à très bientôt.
Merci, Shoam. Salut, capitaine Nico. Et puis, à très bientôt, plus également.
Allez, au revoir à tous. À demain et très bon jeu. Ciao.
À demain. Bye.
Au revoir. Ciao, ciao. Bye bye.
Ciao, ciao.
Game Radio.